Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef Voilà sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Et on parle de cuisine le samedi entre midi et 13h avec Manuel Mariani. Bienvenue Manu.
Bonjour Philippe. Voilà. J'ai un peu, comme vous le voyez, j'ai ma voix qui est partie un petit peu aujourd'hui.
Alors, surtout comme vous l'entendez.
Oui. Enfin bon.
Mais c'est beaucoup mieux par rapport au début de la semaine, parce que début de semaine, c'était...
Yves Mourouzi, ça vous rappelait quelque chose?
Ah, moi, ça me rappelle, mais la plupart de nos auditeurs n'étaient pas nés. Bien, critique gastronomique, grand influenceur, comme on dit, Manu, on a invité qui aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on reçoit Raphaël Gomez, qui est l'ancien chef l'ancien chef exécutif du Grand Cœur, qui est l'adresse parisienne du grand chef aussi, Moro Calagrico,
qui a fait le tour du monde en fait.
Voilà. Alors oui, parce que Raphaël Gomez, il a travaillé aux États-Unis, il a travaillé au Brésil,
il a pas travaillé au McDo aux États-Unis.
Ah non, il a travaillé dans un restaurant qui est aujourd'hui considéré comme par le classement du 50 Best Restaurant comme le meilleur restaurant du monde.
Ouais.
Et puis après, quand il est arrivé, où,
à New York?
Je ne sais pas, mais Rafa va nous le dire.
C'est Eleven Madison Park.
Ah voilà.
Donc. Non, c'est juste une des avenues les plus chères du monde.
Oui, absolument, oui.
Non.
Madison Avenue, c'est.
Mais c'est quand même.
C'est pas donné quand même. Ouais. Et puis après, en France, il est allé chez Moro Calagrico, au Mirazur. Qui est devenu, je crois, le quatrième meilleur restaurant mondial, c'est ça, le classement
exactement.
50 Best.
Exactement.
Donc on peut dire que c'est un chef porte-bonheur, hein, parce que là où il passe,
c'est l'énergie.
Voilà, c'est l'énergie positive de Raphaël Gomez, l'énergie positive qui nous vient du Brésil, hein, qui est un pays où on rêve souvent d'être quand il fait pas beau ici.
Alors il essaye de convaincre l'imam Abdelali Mamoun d'aller manger brésilien. Bon.
Ouais, parce que quand j'ai posé la question à notre chef, quel est le plat de référence au Brésil, il me dit c'est le cassoulet.
Ouais, c'est la feijoada, qui est un cassoulet brésilien.
Cassoulet avec des jambons et des. Non, avec du comment?
Il n'y a pas de jambon.
Du saucisson et du boudin. C'est ça, normalement, le cassoulet.
Ah non,
mais on peut le faire avec du canard confit.
C'est la feijoada. Ça ressemble à un cassoulet à cause des haricots, mais c'est pas un cassoulet à la française.
Je vous dis qu'à Brésil, il y a quand même des churrascos, que c'est barbecue, il y a feijoada, il y a plusieurs choses. Et que la feijoada, ça ressemble un peu à notre cassoulet ici.
D'accord, mais il n'y a pas de cochon dedans.
À Brésil, oui.
Au Brésil, il y a du cochon.
Bah, Brésil, c'est la nourriture.
Bon, c'est mort pour
populaire.
Vous. Non, c'est mort. On vous gardera les faillots, mais.
Petite information pour l'imam Abdelali, il n'y a pas forcément toujours du cochon dans le cassoulet, parce qu'on fait du cassoulet avec le confit de canard, par exemple. C'est très, très bon.
C'est ça que je veux dire.
Ok, d'accord. Bah, je suis preneur pour le confit de canard, je veux bien.
Bon, pas de souci. Bah,
Philippe, c'est haram.
Raphaël,
je dis pas que c'est le sanglier qui est haram, c'est le cochon qui est haram.
Voilà, mais
à l'origine, le halouf, c'est le sanglier.
Alors non, le halouf, c'est le cochon. Le khenzir, c'est le sanglier. Mais le khenzir, c'est celui qui est cité dans le Coran. Mais le khenzir et le halouf sont deux animaux cousins. Un est domestiqué, l'autre est sauvage. Mais c'est la même, c'est la
bon,
même.
On ne fera pas manger de cassoulet, mais
le sanglier. Bon.
Est-ce qu'on peut manger du facochère alors?
Est-ce que c'est un animal carnivore ou omnivore ou herbivore?
Le facochère, il vit dans la nature, il se nourrit de gland, je pense. C'est l'ancêtre du sanglier, plus ou moins.
Non, mais est-ce qu'il est carnivore ou herbivore?
Non, il n'est pas carnivore, le facochère.
Alors, en principe, la règle en islam, c'est que tous les animaux herbivores sont halal. Tous les animaux herbivores.
Bah voilà, on vous fera une feijoada au facochère.
Au facochère, je suis pas sûr que c'est pas un animal protégé ça, le facochère.
Ah, je sais pas, bon, c'est pas grave, on ira le chasser, on ira le braconner avec Raphaël Gomez.
Ceci dit, Manu, pour trahir un secret, vous ferez le tour du monde pendant le mois du Ramadan.
Absolument.
On peut faire un tour brésilien avec beaucoup de plaisir.
Pourquoi pas, bien sûr.
On ramène un tour pendant le Ramadan. Qu'est-ce qu'il en pense, monsieur Gomez?
Viens,
il est prêt.
Pourquoi pas? La cuisine brésilienne, on connaît surtout les grillades, la feijoada, mais c'est une cuisine très très variée en fait. Hein. C'est une cuisine très riche.
Que Brésil, c'est quand même un pays énorme.
Ben oui, parce qu'on a au Brésil, on a la mer, on a la montagne, on a la campagne,
c'est un continent,
surtout la forêt,
l'Amazonie. On a tout, on a la montagne, la mer, la campagne. Donc on trouve énormément de produits. En plus, il y a un climat qui est quand même vachement favorable à l'agriculture et à l'élevage, etc. Donc c'est vrai que c'est une gastronomie qu'on connaît assez peu. C'est vrai que dans les restaurants brésiliens, quand on les trouve à Paris ou en France, ils servent un peu toujours la même chose. Ils servent la feijoada, ils servent des grillades. Mais c'est vrai que la vraie cuisine brésilienne, dont Raphaël pourrait nous parler, je pense, pendant des heures. C'est une cuisine qui est très très variée, très riche et très bonne.
Alors pour expliquer à l'imam Abdelali, les restaurants qu'on trouve brésiliens dans le monde entier, c'est beaucoup de restaurants qui sont avec des grillades à volonté, avec des espèces d'épées sur lesquelles il y a toutes les viandes qui sont grillées.
Ouais, mais comme je le dis tout le temps, quand un restaurant vous propose quelque chose à volonté,
c'est que c'est pas bon.
Vaut mieux pas y aller, c'est pas les bons produits, ça coûte de l'argent, et quand on vous donne des trucs, quand on vous donne des menus à 25 euros à volonté, avec soi-disant la meilleure viande du monde, c'est pas vrai, c'est pas la meilleure viande, c'est de la viande de mauvaise qualité.
Celle du chef Gomez, voilà, qui est avec nous, c'est de la gastronomie.
Absolument.
Donc on utilise des produits de haute qualité.
Tout à fait.
Donc c'est de la truffe, c'est
et quoi, de saison, comme je dis tout le temps.
Et de saison. Locaux.
Des asperges, qu'est-ce que
exactement, les petits pois maintenant, c'est les asperges.
Et des betteraves, tu vois, c'est pas forcément cher, et des betteraves, c'est vous qui faites les betteraves les meilleures du monde, non?
Bien sûr.
Alors, c'est quelle partie des bovins, par exemple, que la bonne partie de la viande?
Pour moi, les produits gastronomiques, c'est les bons produits. C'est les produits de saison, c'est les produits.
Non, je parlais de viande. En viande, c'est quoi la partie du bovin?
Ah, le morceau, votre
morceau. Le morceau, voilà,
le morceau que j'aime beaucoup, c'est la picanha.
Picanha.
Voilà, ça veut dire picanha. C'est un groupe qu'il y a beaucoup au Brésil. Ça se trouve un peu à côté de la jambe.
Ouais, c'est une façon de trancher la viande, en fait. Voilà.
D'accord. C'est bien hyper tendre et c'est
délicieux.
Il y a un goût.
J'ai déjà l'eau à la bouche.
La picanha, on tranche perpendiculairement à la fibre au lieu de trancher dans le sens de la fibre et ça, et du coup, ça donne un.
Exactement.
Ça donne une.
C'est comme du bar.
Un persillé à la viande qui est délicieux.
Et vous cuisinez ça sur votre carte?
Faut pas lui raconter ça.
Oui,
pendant Ramadan.
C'est pas le Ramadan encore.
On va pas tenir la journée avec vous là. Si à chaque fois vous faites ça.
Tous les jours pendant le Ramadan, l'imam.
Je leur souhaite bon courage ceux qui vont écouter l'émission.
Raphaël Gomez, c'est quoi le plat emblématique du Brésil, si on devait le résumer? Le plat que tout le monde sait que.
C'est ça, c'est hyper difficile à dire parce que Rio, ça c'est une chose beaucoup plus léger parce qu'il y a de la mer, de la plage et tout. Donc on fait beaucoup de grillades, des barbecues.
Des poissons,
les poissons, les fruits de mer.
Mais il n'y a pas un plat brésilien, par exemple, aux poissons, parce qu'il existe un plat aux poissons, par exemple. Parce que effectivement, vous avez une grande côte, une longue côte.
Mais il y a de la moquiaca.
La moquiaca, ça veut dire quoi?
Moquiaca, enfin c'est avec un CCD, c'est ça?
Moquiaca. Des poissons, que c'est un plat avec des dindés, les coco, beaucoup de coriandre, des oignons, des poivrons.
C'est le coriandre. C'est le cosbor, chez nous on appelle ça le cosbor. Vous mettez du cosbor dans le poisson.
Ah, ça va très bien avec le poisson, la coriandre.
Chez nous ça se fait souvent, coriandre.
Bon voilà, citron.
Superbe, machallah.
Les de coco.
Il y a de la noix de coco, très bien. Machallah, c'est bon tout ça. C'est bon, c'est délicieux. Bah, en tout cas, moi je vais aller manger parce que j'ai faim.
Ah ben, bah, on lui a donné faim à l'imam Abdelali, là, ça y est.
Et au plaisir, Inch'Allah, de vous revoir. Pendant le Ramadan,
merci,
pourquoi pas. Allez, au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Alors, on va parler du barbecue. Manu, quelle est l'origine du barbecue?
Alors, c'est un peu complexe parce que le barbecue tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un amalgame de plusieurs choses. Déjà, au niveau du terme lui-même, pardon, c'est un terme américain qui est dérivé du terme barbacoa. C'est un mot de la langue arawak. Excusez-moi.
C'est la fumée du barbecue. Il y a quelqu'un qui a mal allumé son barbecue.
Sont mes restes d'angine. Les arawaks, c'est les Amérindiens qui vivent aux Antilles, aux Caraïbes et en Amérique du Sud. Des Amérindiens amazoniens pour la plupart. Et d'ailleurs, à l'origine, ce barbacoa, c'était un treillage en bois en dessous duquel on faisait fumer des braises et qui servait non pas à cuire, mais à ce qu'on appelle boucaner, c'est-à-dire à fumer les poissons et les viandes pour les conserver. Ce sont ensuite des colons européens qui maîtrisaient le travail du métal, qui ont détourné le procédé en remplaçant le bois par des grilles métalliques et qu'on en fait un mode de cuisson plus qu'un mode de fumage. Mmh. Mais l'homme de cuisson à la braise en lui-même, c'est beaucoup plus ancien parce que ça remonte à la domestication du feu, c'est-à-dire près de 400 000 ans avant notre ère. À l'époque, on cuisait les aliments directement dans la braise ou encore sur des pierres qu'on posait sur les braises chaudes. Et enfin, pour ce qui concerne le barbecue moderne, c'est une invention d'un Américain qui s'appelle George Stephen en 1952 qui travaillait dans l'entreprise Weber Brothers. Weber, ça doit vous dire quelque chose, puisqu'aujourd'hui, on trouve encore des barbecues Weber. Alors l'entreprise existe toujours justement et c'est aujourd'hui le fabricant de barbecue numéro un dans le monde. Mmh. C'est un, alors ce modèle de barbecue qu'il avait inventé, c'était un barbecue avec couvercle, ce qui permettait de cuire les aliments, principalement les viandes, tout en leur donnant un bon goût de fumée et puis d'accélérer un petit peu la cuisson. En Europe, on privilégie plutôt la cuisson au barbecue sans couvercle, à découvert. Ouais.
Mais ils ont c'est des Rolls-Royce qu'ils ont, les Américains.
Oui,
ça me paraît pas vieux, 1952 finalement.
C'est l'invention du barbecue moderne avec un couvercle.
Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais.
De l'ustensile, on va dire.
Parce qu'il y avait des rôtisseries, enfin on a toujours grillé plus la viande. Hein.
Ah ben complètement, mais avant on faisait ça dans le feu de la cheminée, on faisait ça dans la cheminée avec les braises de la cheminée où on creusait des trous dans lesquels on mettait des cendres. Là je parle encore il y a encore plus longtemps, les gens qui étaient un peu nomades, etc. On creusait des trous, on récupérait les braises du feu qu'on mettait dedans, on mettait des petits rondins de bois, puis on posait des viandes dessus ou des trucs. Voilà, bon ça c'est autre temps, autre mœurs, cher Philippe.
Exactement, c'est comme Hawaï, on fait avec de la feuille de la banane. Donc on fait le feu, on fait un trou, on fait la braise, la feuille de la banane, on couvre et laisse là pour au plus d'une heure. Et après c'est hyper bon, c'est tendre, il a du goût de fumée, il y a tout.
Ouais, il y a une grande culture de la cuisson à la braise, c'est vrai ce que dit Raphaël. Il y a une grande culture de la cuisson à la braise à Hawaï, bon qu'on connaît pas trop parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la mode des pokéballs. Alors
c'est-à-dire qu'on va pas beaucoup à Hawaï, on y va pas assez.
Il y a une vague hawaïenne en ce moment à Paris, il y a plein de restaurants de pokéballs qui ouvrent. Alors les pokéballs, ça n'a rien à voir avec les petites babales que s'envoient les Pokémon. Hein. C'est des pokéballs, B-O-W-L, comme un bol.
Ah oui, c'est les bols où on met tout, là, qui font un plat complet.
Voilà, avec du riz, des légumes, du poisson, etc. C'est un plat traditionnel hawaïen. Mais en fait, il y a avant tout une très grande culture des grillades à Hawaï, notamment sur les pierres chaudes, d'ailleurs, souvent, dans les feuilles de bananier, sur des pierres chaudes, on fait cuire des poissons à l'étouffer dans des feuilles de bananier avec plein d'épices. Ça cuit comme dans une papillote, c'est délicieux.
Alors c'est le barbecue, c'est une invention hybride, hein, Manu. Quels sont les pays où on pratique la cuisson barbecue?
Alors c'est un mode de cuisson qu'on retrouve aujourd'hui pratiquement partout dans le monde, mais sous des noms différents. Déjà sur le continent africain, les Maures ont propagé ce mode de cuisson sur des braises qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, et plus généralement dans tout le bassin méditerranéen, juste en Turquie en fait. Et depuis, ce mode de cuisson, il est remonté au nord par le Caucase, puis en Europe centrale, mais aussi dans l'autre sens, jusqu'en Afrique du Sud, où il y a une grosse culture du barbecue aussi, qui est mixte, hein, qui est d'un côté l'influence mauresque, et de l'autre côté, l'influence ensuite des Européens qui étaient pendant très longtemps politiquement majoritaire, on va dire, pour pas parler d'apartheid, en Afrique du Sud. En fait, partout où on maîtrisait le feu, on a fini par utiliser la braise comme source de chaleur pour cuire les aliments.
Alors, et aujourd'hui, quels sont les pays champions du monde de barbecue?
Ah bah, je vais faire plaisir à Raphaël, parce qu'aujourd'hui, incontestablement, c'est l'Amérique du Sud, où dans certains pays, c'est une tradition ancestrale qui est devenue un véritable art de vivre. On peut citer l'asado argentin, le churrasco brésilien, la parrilla uruguayenne.
Exactement.
Dans ces pays, on cuit généralement la viande le plus nature possible, et on l'accompagne ensuite de petites sauces à côté, comme le chimichurri, qui est une sauce servie froide ou tiède à base de persil, d'ail, d'huile, de citron, de piment, d'épices. Il y a une variante de la tomate aussi, qu'on appelle le chimichurri rose. Qui ressemble à la sauce vierge qu'on mange en France.
Voilà. Il y a les molho accompagna, qui c'est le molho qui accompagne la viande, qui c'est oignon rouge, tomate, du l'ail, persil, poivron rouge,
ouais, comme un condiment, l'Amérique du Sud, comme le précise Raphaël, c'est effectivement la viande qui est plutôt nature et qu'on juste salée, poivrée, et qu'on sert avec des petits accompagnements autour. Alors en revanche, en Amérique du Nord, on fait pratiquement toujours mariner les viandes. On procède même parfois à un fumage avant la cuisson. Aux États-Unis, la cuisson au barbecue, c'est même un métier au même titre que celui de cuisinier. On appelle ça un pitmaster, littéralement le maître de la fosse. Mm-hmm. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les premiers Américains, pour faire des barbecues, ils creusaient des trous dans le sol. dans lesquels ils mettaient des braises et ils recouvraient ça ensuite d'une grille sur laquelle ils mettaient leurs aliments. Mais depuis les années 70, ça devient aussi un vrai phénomène de société en France également. La marque de barbecue Weber, donc que j'ai cité tout à l'heure, a même récemment ouvert une école de cuisine au barbecue qui s'appelle la Weber Grill Academy.
Et qu'est-ce qu'on a on sort diplômé quand on sort diplômé de cette
école. Alors on sort avec un diplôme de pitmaster. On devient un expert de cuisine au barbecue. Alors il y a des chefs qui ont déjà leur diplôme, qui ont déjà de l'expérience, qui font ça en plus de leur formation initiale, soit parce qu'ils veulent ouvrir un restaurant, un steakhouse, ou parce qu'ils sont engagés dans un steakhouse et donc leur patron les envoie se former là-bas. Mais c'est une vraie académie avec un vrai programme, des vrais cours. C'est très sérieux. Au même titre qu'en France, il y a dans une brigade, il peut y avoir un rôtisseur, un poissonnier, un chef poissonnier, etc. Aux États-Unis, il y a des pitmasters dans les restaurants qui sont des vrais chefs de partie ou des vrais chefs barbecue, voilà, comme on le dirait en France.
C'est intéressant ça. Voilà. Au Brésil, il y a plein aussi, hein.
Oui, il y a des pitmasters,
mais
oui.
ils ne sont pas
diplômés.
Formation, c'est ça.
Ouais.
C'est ils apprennent. Qu'on est petit, on est obligé à faire pour les potes, pour tout. C'est le moment de manger, partager, quoi. C'est le moment qui
est ça.
Il y a toujours, c'est jamais une personne en train de le faire. C'est toujours, il y a plusieurs personnes à côté qui on partage, on fait un grillade, on coupe, on mange direct.
Oui, le barbecue, c'est vraiment le partage entre amis, en famille. C'est
pas gastronomique.
C'est ça qui est très sympa, ouais. C'est ça.
Le barbecue, c'est jamais gastronomique. C'est toujours un moment de partage.
Non, mais en revanche, c'est très convivial. C'est pas gastronomique. Ça peut être très bon. Ça peut être très bon, mais bien que ce soit pas gastronomique au sens français du terme.
Gastronomique, c'est un peu, c'est ça.
Voilà. C'est pas très cuisiné, mais c'est
très bon.
C'est quand même très bon. Et on peut faire des choses très originales. On va le voir tout à l'heure.
Bien, Raphaël Gomez, c'est notre invité, Manuel, aujourd'hui. Le cuisinier trèfle à quatre feuilles qui aujourd'hui ouvre sa propre adresse. Il a pignon sur rue. Le restaurant s'appelle Itacoa et on en parlera tout à l'heure.
Les exploits du chef, revient dans un instant. Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef voilà, sur Beurre FM.
Avec Manuel Mariani et le chef Raphaël Gomez, qui est notre invité, un des meilleurs cuisiniers de sa génération, qui s'installe chez lui aujourd'hui. Enfin, c'est Manu qui le dit. Mais Manu est un dénicheur de talent. D'ailleurs, vous avez le nez creux pour ça, Manu.
Écoutez, je me renseigne un petit peu, mais enfin, je suis pas le seul à connaître Raphaël Gomez, heureusement. C'est vrai que parmi mes confrères de la critique gastronomique, on est très nombreux à le connaître parce que c'est effectivement un chef talentueux. Moi, je l'ai connu effectivement au restaurant Grand Cœur à Paris, dans le Marais. Et puis, il est parti. Justement, quand il est parti, il a fait un petit barbecue pour son départ, puisque c'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée d'inviter Raphaël Gomez pour parler du barbecue, parce que c'est vrai que déjà le barbecue qu'il avait préparé était quand même assez fantastique.
Hein,
on avait quand même très bien mangé. Et puis surtout, comme je le disais quand j'avais fait la chronique de son restaurant il y a 3 semaines ici même, ce que j'apprécie dans sa cuisine, c'est quand on lit sa carte, on dit mais le mec est complètement fou, il mélange ça avec ça avec ça, il mélange des trucs sur le papier, même pour nous professionnels de la gastronomie, journalistes, sur le papier on dit mais il est malade de mélanger ça, ça va jamais aller. Et quand on le goûte, on se dit ah merde, alors là franchement on se fait cueillir. et c'est ça que j'apprécie dans sa cuisine, parce qu'il est complètement freestyle et ça prouve qu'il a une très bonne maîtrise de son art, de sa technique, et ça prouve qu'il travaille surtout, parce que les chefs qui arrivent à faire des associations comme ça qui sont très bonnes en bouche, qui sont bonnes gustativement parlant, mais qui peuvent paraître incohérentes ou surréelles, sont des chefs qui bossent, quoi, qui s'intéressent à beaucoup de choses, qui picorent à droite, à gauche, des idées.
C'est tout cet voyage que j'ai fait, tous les voyages, tous les produits qu'on mange tout le temps, et c'est toujours un mariage de saveur, texture, acidité, toutes les choses ensemble. Il y a des fois que ça marche hyper bien. Une fois, j'ai fait un dessert avec fraises et les petits pois.
Ah oui, oui, oui.
Hyper bon.
C'était au Grand Cœur, ça.
C'est un dessert anglais, ça, non?
Non, c'était.
Ah, je sais plus, mais j'avais mangé un dessert aussi au Grand Cœur où je m'étais dit, mais comment ça marche, ces trucs-là, ensemble? Et c'est vrai que quand on goûte, En plus, moi qui suis assez difficile sur les desserts, parce que je suis pas un amateur de sucre, donc j'aime bien les desserts pas trop sucrés, etc. Bon, là, en l'occurrence, je sais plus, mais il y avait un légume. C'est peut-être ça avec les petits pois, d'ailleurs. Je me souviens plus. Bon, c'est vrai, je fais tellement de restaurants que je garde pas tous les plats de chaque chef en tête. Mais c'est vrai que, bon, moi, j'apprécie effectivement ce côté du chef qui peut aller puiser dans ses racines et fait préparer un barbecue à la brésilienne super sympa et super goûteux et puis à côté de ça qui arrive de par ses voyages et de par sa curiosité gustative et culinaire aller piocher des idées dans chaque pays et mélanger des trucs voilà un peu bizarre comme ça.
Qu'est-ce qu'il y a dans un barbecue à la brésilienne?
Mais alors, la viande rouge, de volaille, de poisson, de légumes, beaucoup de légumes. Mm-hmm. Il y a toujours en salade de pommes de terre, de riz blanc. Au Brésil, on mange du riz tous les jours. Et il y a toujours.
Mais ça, c'est des accompagnements. Mais vous dites, Manu, que le barbecue de Raphaël était extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire pour vous? Qu'est-ce qui vous
a semblé? Il y avait de la picanha. Il y avait des saucisses. Il y avait du bœuf. C'était vraiment très très varié. C'était un mix de grill, quoi. C'était un mélange de viande, mais qui était parfaitement cuite, parfaitement assaisonnée. Et c'était quelque chose de, c'est quelque chose dont j'ai gardé un très bon souvenir, mais c'était quelque chose de simple. C'est ça qui est intéressant dans le barbecue, c'est que quand on sait pas cuisiner, on soit des amis ou de la famille à la maison, si on a un jardin et un barbecue. Je veux dire, c'est quand même une valeur sûre, quoi. On fait un barbecue avec quelques conseils qu'on va pas tarder à donner. C'est assez simple de faire un barbecue à la maison sans se brûler, sans rendre malade tous ses invités.
Enfin, déjà, il faut commencer par l'allumer, le barbecue.
Ah ben oui, ben ça, on va en parler. Est-ce que vous voulez quelques conseils pour faire un bon barbecue?
Allez-y, Manu.
Bah alors déjà, la première précision, si ça n'était pas clair pour tout le monde, le barbecue, c'est un mode de cuisson qui se fait exclusivement à l'extérieur. N'allez pas déclencher vos détecteurs de fumée à la maison. Le barbecue, c'est à l'extérieur. Ensuite, au niveau du matériel, si on n'a pas un modèle à couvercle, il faut installer son barbecue à l'abri du vent et si possible à l'écart de la table où il y a les invités pour pas les enfumer, hein, bien sûr. Ensuite, il y a une étape cruciale, c'est la préparation des braises. Pour un barbecue réussi, il faut préparer ses braises à peu près une heure à l'avance pour qu'elles soient encore assez chaudes pour saisir la viande, mais qu'elles aient quand même suffisamment refroidi pour pas la carboniser. Ça, c'est très important. Je rappelle le principe de la cuisson au barbecue, c'est la chaleur des braises qui doit cuire la viande, pas les flammes. Donc,
pas les feux, oui, c'est ça.
Voilà. Pas les flammes. Il y a les flammes au début, mais c'est les flammes qui vont faire la braise. Et on commence à cuire quand on a ces braises.
On peut jamais cuire avec cette flamme.
Parce jamais.
Il y a les goûts de la...
Du charbon. De
gasoline.
Quoi. Oui, c'est ça. Oui, de la gasoline. Ça donne un goût très désagréable. Très désagréable. Alors, on utilisera un bon charbon de bois. Alors, le charbon de bois, ça se trouve un peu partout. Même dans votre station service aujourd'hui, vous trouvez du charbon de bois. Si vous êtes à la campagne, vous avez du tube bois sec à proximité, comme du chêne, du bouleau, du frêne, du noisetier, du cerisier, ou encore mieux des sarments de vigne. Ajoutez-les à vos braises. Ça donne un petit goût super parfumé à la braise. Ça va donner un goût très, très original, un peu chlorophyllé, voilà, un fumé chlorophyllé à votre braise. Pour l'allumage, vous utilisez du papier, du petit bois sec, ou alors si vous êtes pas très à l'aise, si vous avez deux mains gauches, vous utilisez les allumes barbecue, mais surtout n'utilisez jamais d'alcool. Il y a des gens qui voient alcool à brûler sur les bouteilles, ils se disent, ah bah, ça peut allumer tout. Ouais, sauf que ça peut exploser déjà. Et puis surtout il y a des gens qui versent directement l'alcool dans le barbecue et qui se brûlent très grièvement. Donc pas d'alcool, surtout jamais d'alcool. Voilà. Alors c'est un accident très courant chaque été d'ailleurs. Le but du jeu, c'est de griller la viande, pas le cuisinier. Alors ensuite, quand vous préchauffez votre barbecue, vous positionnez la grille au plus près des braises pour qu'elle préchauffe également. Et vous la remontez ensuite pour démarrer la cuisson de manière à ce que la viande soit bien saisie avec les grilles très chaudes, mais qu'elle ne brûle pas. Parce que ça donne un goût désagréable, comme disait Raphaël, un goût un peu chimique, un goût de pétrole, un peu.
Oui, ouais. Ça, des pétroles.
Voilà. Alors pour manipuler les aliments sur la grille, utilisez des ustensiles en métal. Hein, on prend pas ces petites pinces en bois et tout, parce que sinon vous allez faire de la braise avec aussi. Et vous prenez un manche suffisamment long pour être le plus éloigné possible de la chaleur des braises, parce que c'est très chaud. Et puis aussi pour éviter de respirer les fumées qui sont quand même toxiques si vous êtes le nez dessus.
Hein. Une chose que c'est hyper important. Après que tu fais ton viande, reposer un peu. Reposer comme 4-5 minutes.
La viande une fois qu'elle est cuite.
La viande une fois qu'elle est cuite. Ça c'est vraiment.
C'est la base.
C'est la base. Mmh. C'est la base. Sinon il y a trop de sang qui tourne dedans et ça coule. Mmh. Et là c'est bien sec, c'est bien.
Oui, désagréable. C'est vrai que le fait de. D'ailleurs même en la couvrant, si on peut la couvrir avec du papier d'aluminium, on la laisse reposer.
Comme bien, ouais.
Comme ça elle reste au chaud et c'est vrai qu'après la chaleur va aller jusqu'au centre. Mmh. Donc on peut avoir des viandes bleues mais chaudes avec ce temps de repos et ça permet aussi d'attendrir la viande.
Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le secret de merguez bien cuite? C'est très rare de trouver des merguez au barbecue parfaitement cuites.
Alors il faut des merguez faites par un artisan, par un vrai boucher, qui soit avec du boyau naturel et non pas du boyau en plastique ou synthétique. Et ouais. Quand c'est du vrai boyau et que ça a été fait par un vrai boucher qui a pas mis 8 kilos de gras à l'intérieur, on ne les pique pas.
Jamais.
Voilà.
La saucisse, je pique jamais.
Ni les saucisses, ni les merguez au barbecue.
Jamais.
Une saucisse qui est bien fabriquée. D'ailleurs, Raphaël en fabriquait chez Grand Cœur. Ouais, je m'en souviens. Mais, une saucisse qui est bien fabriquée, elle se fait avec un boyau naturel. Quand la farce est bien équilibrée entre le gras et le maigre de viande, et qu'on utilise un boyau naturel, il n'y a pas besoin de le piquer. Et en plus, si on le pique, il y a tout le jus s'écoule et le jus, c'est la saveur. Voilà. Donc. C'est le secret.
Et reposer après aussi.
Voilà.
Reposer après.
Les saucisses.
Pour le moelleux, ouais. Pour le moelleux, ça les évite de dessécher.
Alors, marinade ou pas marinade?
Alors là, c'est vraiment selon le goût de chacun. Si vous avez un morceau de viande exceptionnel, comme une belle côte de bœuf, charolaise ou de salers ou d'autres beaux morceaux, juste un peu de sel et le poivre.
Le gros sel, quand même.
Voilà, le gros sel. Alors ça, c'est effectivement une chose que j'avais oublié de préciser dans mes conseils et que Raphaël a rappelé tout à l'heure pendant la pause publicitaire, qui est très important, c'est d'utiliser effectivement, comme Raphaël le disait, du gros sel et pas du sel fin. Parce que le sel fin, ça va faire sortir le jus de la viande et qui va tomber dans les braises, ça va faire de la fumée. Et puis quand le jus s'en va, c'est le goût qui s'en va aussi.
Mais à quel moment on sale?
Alors.
Au début.
On sale au début, mais avec du gros sel. Si vous salez avec du sel fin au début, quand vous faites des salés des concombres, vous mettez du sel fin sur les concombres, ça dégorge. Ouais. Bah, avec la viande, ça va être exactement la même chose. Si vous mettez du sel fin sur votre viande, déjà, vous le salez juste au moment de cuire. Vous salez pas 2 heures avant. Et vous salez effectivement avec la fleur de sel ou du gros sel. La fleur de sel, c'est très bien parce que ça parfume, ça fond à la cuisson. En plus, ça fait croustiller la viande, la fleur de sel. Je ne sais pas pour quelle raison il doit avoir une propriété chimique, mais la fleur de sel, ça va bien faire croûter la viande, ça va la faire, elle va être bien dorée, bien rôtie. Bon, c'est un effet qu'on a quand même assez facilement avec un barbecue, parce que ça chauffe quand même assez fort. Mais voilà, on évitera le sel fin. Et puis, mieux aussi du poivre du moulin, parce que si vous prenez du poivre déjà moulu pour le barbecue, le poivre, comme il est très fin, il va tomber dans les braises, il va brûler et il va carboniser, ça va donner un goût un peu âcre à la viande. Voilà. Alors pour en revenir à la marinade, comme je dis, si on a un morceau de bœuf d'exception, du sel, du poivre, la viande elle se suffit à elle-même. Sinon, on pourra faire une marinade, bien sûr. Alors il y a des tas de mélanges possibles, des herbes, des épices, du citron, de l'ail. Pourquoi pas de la sauce de soja, du gingembre frais si on veut donner une petite touche asiatique à son barbecue. Cela dit, il y a deux ingrédients que je conseille d'utiliser en petite quantité, c'est l'huile et le miel. Parce que souvent dans les marinades de barbecue, on blinde ça d'huile d'olive, de miel, etc. C'est une erreur, parce que si la marinade elle est trop grasse ou trop sucrée, la viande risque de brûler à l'extérieur avant de cuire à l'intérieur. Soit parce que le miel va caraméliser tout de suite et donc il va cramer, soit parce que l'huile va accélérer la cuisson et ça va brûler aussi. En plus, la viande carbonisée à haute dose, c'est connu pour être cancérigène, donc faut pas avoir la main trop lourde sur l'huile ou sur le miel dans les marinades. Ça, je recommande pas.
Et à part la viande, alors Manu, qu'est-ce qu'on peut cuire au barbecue?
Il y a le poisson aussi. Je sais que vous aimez beaucoup le poisson, Philippe, mais pas seulement. On peut faire cuire pratiquement n'importe quoi au barbecue, mais il faut prendre quelques précautions. Pour le poisson, par exemple, on va le faire cuire entier. On va pas faire cuire des filets, parce que des filets de poisson au barbecue, en 20 secondes, c'est brûlé, c'est trop sec, voilà. Donc on va prendre un poisson et vous demandez à votre boucher de l'écailler, de le vider, mais de le laisser entier.
Alors, le boucher, il va pas vous faire du poisson, hein.
Pourquoi donc? Oui, de votre poissonnier. Pour votre poissonnier. Alors, pardon.
C'est le poissonnier, Manu.
Absolument, absolument. C'est donc c'est vous cuisez ça directement au barbecue. Donc pas de filet de poisson. Tous les aliments épais. Alors voilà. Et plus les aliments sont fragiles et fins, plus vous les cuisez sur le côté de la grille. Pour là où la température sera moins élevée, pour pas qu'ils brûlent. Mais vous pouvez aussi cuire des légumes, des tomates entières ou coupées en deux à la provençale, vous savez, avec un petit peu de chapelure, un petit peu de gros sel et quelques herbes de Provence. Vous pouvez cuire des asperges, vous pouvez cuire des aubergines.
Des asperges au barbecue.
Ah mais oui, mais c'est délicieux, c'est super, délicieux. Les asperges au barbecue, le goût de l'asperge en pleine saison, des asperges vertes avec les asperges blanches. J'ai essayé une fois, je valide moins, mais.
Tu viens pas, mère.
Raphaël, les asperges vertes au barbecue, c'est exceptionnel.
Le petit les goût. Légumes, les patates douces.
La patate douce, le fenouil.
Les
poivrons,
carottes,
les courgettes.
Les carottes au barbecue. Carottes,
mais oui.
Oui, un petit peu d'huile d'olive, cumin et sel au barbecue.
Oui, carottes et cumin, bon. Ça marche super bien ensemble. Ouais. Et le cumin, ça va très bien avec le goût fumé du barbecue.
C'est les goûts fumés, c'est exactement, c'est ça.
C'est des associations sûres qui marchent, quoi. Bah, puis il y a aussi les pies de maïs, quoi, qu'on peut faire griller au barbecue. Ça, c'est
oui, mais ça, c'est le barbecue. Mais après, il y a comment, Argentine, Uruguay. Mmh. On fait la parilla, et c'est...
Là
parilla.
Parilla, ouais, c'est parilla, c'est parilla avec la l'accent parilla, brésilien.
C'est oui, en Argentine, on dit parilla. Et que c'est la petite braise. Et on fait cuire pendant longtemps. Mais comme 8 heures, 10 heures, mais les gros morceaux. Et ça, c'est bien aussi.
C'est comme un méchoui, ça cuit. Ah ouais. Voilà, avec ça cuit doucement, mais longtemps.
Des sels et l'herbe. Et on fait cuire un côte de bœuf entier.
Et vous savez, Philippe, vous pouvez, pardon. Et puisqu'on parlait d'Amérique du Sud, moi je pense à l'avocat. On peut aussi faire des trucs avec des avocats. Vous savez, vous prenez des avocats, vous les ouvrez en deux, vous enlevez le noyau, vous les faites cuire côté peau pendant une vingtaine de minutes, et 10 minutes avant la fin de la cuisson, vous cassez un œuf à l'intérieur, vous mettez un peu de sel, un peu de poivre. Ça, c'est tout bête, ça paraît surréaliste. C'est de la cuisine à la Raphaël Gomez un peu. C'est, on mélange des choses un peu bizarres. Et mais à l'arrivée, c'est exceptionnel. Vous verrez, c'est délicieux. Puis bien sûr, bon, il y a le grand classique. On peut envelopper des pommes de terre dans du papier aluminium. Là, par contre, on les glisse directement dans la braise. Vous pouvez faire pareil avec les patates douces, mais je suis moins fan. Les patates douces, vaut mieux les ouvrir en deux et les cuire directement sur la grille, parce que sinon, elle devient très très farineuse dans les braises, je trouve. Là,
ça dépend. La patate douce. De la qualité de la patate douce.
Ah, d'accord, parce que qu'au Brésil, vous avez des bonnes patates douces, parce qu'en
oui,
France, elles deviennent farineuses très
ici,
vite.
Ici, hein. il y a aussi de la petite, de la patate douce, qui ça cuit hyper vite.
Et ça, on la met entière sur le barbecue, sucré, ou on la coupe en deux, non, là.
On met entier.
Entier,
aluminium au feu, et après c'est bien fondant, doux, c'est hyper bon.
D'accord. Et puis alors, ce qui est sympa, les pommes de terre dans la braise, quand on les sort, on la coupe en deux, vous mettez un peu de beurre salé, un peu de ciboulette ciselée.
Les oignons entiers.
Voilà.
Oignons entiers, tout fait un peu brûlé, huile d'olive, sel, origan. Et ça, c'est un touré, quoi.
Bah, c'est tout simple, mais c'est tellement bon.
C'est simple comme un barbecue et c'est une cuisine conviviale. On demandera au docteur de labo dans un instant si le barbecue c'est bon pour la santé. Et on parle de barbecue jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef voilà. Le chef voilà. Sur Beurre FM.
Sur Beurre FM.
Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef voilà. Le chef voilà. Sur Beurre FM.
Sur Beurre FM. Avec Manuel Mariani, on reçoit aujourd'hui Raphaël Gomez, cuisinier. Vous pouvez aller déguster sa cuisine aujourd'hui dans sa maison, dans sa propre maison. Ça s'appelle Itacoa.
Alors aujourd'hui et demain, c'est brunch. Hein. On précise.
Brunch brésilien.
Et c'est vrai que la dernière fois qu'on a parlé de vous, Raphaël Gomez, vous m'avez dit ah ben le soir même, il y avait des auditeurs de Beurre FM qui étaient dans la salle.
C'est vrai.
Ouais. Donc vous êtes très rapide, vous nous écoutez le midi et vous allez directement dîner le soir là, dans les adresses qu'on vous conseille. Donc merci de votre confiance.
Alors pour des tas de raisons, on ne peut pas conseiller au docteur de labo d'aller dans les restaurants brésiliens. Hein. Docteur de labo, bonjour.
Bonjour Philippe, comment vas-tu?
Bien, rapprochez-vous de votre téléphone, débranchez votre kit main libre et votre sonotone.
Oui, j'ai débranché, mais c'est parce que je m'activais, figure-toi. Ouais. Je suis un peu minuté aujourd'hui, mon petit loup.
Bien, je disais que c'était pas très prudent de vous envoyer manger dans des restaurants brésiliens, docteur de labo, mais pour d'autres raisons qu'on n'évoquera pas aujourd'hui.
C'est à cause des danseuses.
Exactement, le docteur de labo aime beaucoup les danseuses. Docteur de labo, le barbecue, c'est bon pour la santé?
Bah oui, si on mange correctement, bien sûr que c'est bon. Il suffit de... L'ennui des barbecues, c'est que souvent, on mange énormément d'aliments différents, ça c'est pas une bonne idée. Et puis surtout, on mange un petit peu de tout avec le barbecue. Quand on parle barbecue, on a l'impression viande grillée, bon d'accord, mais il n'y a pas que de la viande grillée, il y a plein d'autres trucs. Et ce sont les autres trucs en question qui ne sont pas forcément bons. Mais sinon, la cuisson barbecue, à condition de ne pas carboniser la viande, tout le monde le sait, parce que c'est dangereux, c'est excellent pour la santé. Mmh.
Mais c'est pas de manger au barbecue qui est dangereux, c'est de manger de la viande brute. Enfin, à partir de quel moment elle devient dangereuse, justement, la viande?
Quand elle est carbonisée.
Oui, mais c'est quand elle est, quand elle est noire, docteur, c'est ça.
Oui, mais attention, pas seulement la viande, les légumes aussi. Hein. Si vous faites carboniser des poireaux, c'est aussi dangereux que de carboniser du steak.
On peut aller jusqu'à la couleur brune sur la cuisson, mais on va pas jusqu'au noir, quoi, en gros.
Exactement. Il faut pas que ça soit du charbon. On voit très bien la différence d'aspect. Et ça, en plus, c'est pas bon au goût. C'est très désagréable.
Oui, c'est pas terrible.
C'est pas bon.
Donc, d'un point de vue santé, pour vous, s'il n'y a pas de contre-indication barbecue?
Absolument aucune. À condition qu'on respecte les bonnes quantités.
Mais alors, si on mange pas trop de riz, de salade de pommes de terre et de trucs à côté, si on mange uniquement des grillades, ça reste quand même sain?
Mais tout à fait, c'est très sain. La cuisson grillée, à condition que ce soit convenablement grillé, que ce soit du poisson, le thon par exemple, ou les maquereaux, ou les harengs grillés, c'est absolument délicieux. À condition, bien sûr, de ne pas à côté mettre énormément de quantités de légumes, de végétaux, de féculents, de pain et autres.
Alors c'est plus un barbecue sinon, hein.
C'est vrai.
Raphaël Gomez,
ça veut dire que si on fait un barbecue avec des hamburgers, avec le bun, la mayo, la salade, etc., on est dans le rouge, quoi.
Bah, on est dans le rouge, pas avec la salade, mais avec la mayo et puis le pain du hamburger.
Et puis le mélange de tout ça, oui.
C'est amusant ce que vous dites, parce que j'étais en train d'expliquer à une patiente, juste avant que vous m'appeliez, un coup de pause, j'ai terminé puis là, que manger une sauce, c'est tout à fait convenable, à condition de ne pas en manger trop, et surtout ne pas mélanger un tas de trucs au même repas, parce que si vous commencez avec de la mayo, que vous terminez avec de la béarnaise et que vous passez entre deux à une autre sauce, ça va un petit peu compliquer le travail de votre estomac, de votre pancréas et de votre intestin.
Ah, moi ça m'arrange, parce que quand je fais un barbecue, docteur de labo, je ne mange que la viande. Moi je mange pas
les chimichurri.
Bon, avec le chimichurri quand même, c'est vrai, j'avoue.
Qu'est-ce qu'il est faillot avec le docteur de labo. mais c'est vrai que vous avez raison, docteur de labo, parce que dans les barbecues, on a tendance à faire plein de mélanges et au final on goûte tout.
Ben voilà. En fait, le problème d'un barbecue, c'est qu'il est assimilable à un grignotage.
C'est vrai.
On fait pas. Ce qu'il faudrait à un barbecue, c'est avoir son assiette, griller tout, mettre bien sa part grillée, manger ça et pas y retourner trois fois, comme on le fait en général.
Eh ben, c'est pas un barbecue, docteur Delabo, alors.
Heureusement que tous les restaurateurs de Paris ne suivent pas vos préceptes, docteur, parce qu'on s'ennuierait au restaurant, hein, je vous le dis.
Ah non, moi je m'ennuie pas du tout au restaurant. Au
non, mais je vous taquine.
Attention, je me fais l'avocat du diable. Ne confondez pas. Là, je suis en train de vous parler nourriture intelligente.
Non, bien sûr.
Mais il est évident que si vous allez au restaurant, c'est pas pour regarder les autres, se voilà. Avec tout ce qu'ils veulent. Il faut en faire autant, sinon c'est pas drôle.
Absolument,
un restaurant, c'est fait pour ça. Le restaurant, c'est un lieu convivial, c'est un lieu de réunion agréable. Si on fait une restauration pitoyable, ça n'a aucun intérêt, au contraire.
Bon, la prochaine fois qu'on parle de nourriture ensemble, on le fait devant une bonne assiette, docteur, alors.
Voilà, tout à fait.
Mais le docteur Delabo a raison, c'est vrai que pendant les barbecues, on mange toute la soirée ou toute la journée, donc c'est vrai qu'on mange plus au final.
Attends, on va bouffer tout le temps, hein. On va manger autant que parce que vous savez pourquoi? C'est parce qu'on mange debout.
Ah, donc on digère, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a l'impression de digérer plus vite, donc on mange plus, c'est ça?
Non, on est actif, alors on fait pas attention à ce qu'on mange.
Ah, d'accord,
ok. Et on ne compte pas les quantités.
C'est pareil pour les buffets ou quand on est dans un buffet,
buffets, c'est exactement pareil.
Quand vous êtes debout, vous mangez. Vous avez l'impression de manger en petite quantité, mais vous mangez beaucoup plus.
Ça, c'est mon drame. Si j'ai un cocktail ou un buffet avant d'aller dîner au restaurant, j'ai l'impression d'avoir mangé trois trucs et quand je me retrouve à table, j'ai plus faim.
Je te rassure, c'est le drame de tout le monde. Hein.
Docteur Delabo, vous êtes en conférence tout à l'heure, on le rappelle, à la Maison de la Tunisie, boulevard Jourdan, 45 boulevard.
45 boulevard Jourdan.
Voilà. Oui. Et ça parle de Ramadan à partir de 14h. Donc pour tous ceux qui veulent avoir des précisions et qui veulent s'informer d'un point de vue du Ramadan et de la santé, c'est tout à l'heure à 14h.
Et j'y signerai en plus plusieurs de mes livres, bien entendu en priorité le livre « Comment bien gérer le ramadan de l'été », mais j'y signerai aussi d'autres livres, ma nouvelle chrononutrition illustrée, la chrononutrition, parce que comme il y a des professionnels de la santé, et ce qui m'intéresse énormément, je leur ai amené des bouquins sur le diabète et sur le cholestérol.
Donc, oui, et puis moi j'ai reçu des sondages, docteur, où le régime de votre régime de la chrononutrition est très bien classé et en termes de nombre d'utilisateurs et en termes d'efficacité aussi. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement.
Oui, hein, avec plaisir, avec beaucoup de plaisir.
On vous embrasse, docteur Delabo, à vendredi.
Mais je vous fais la bise à tous et merci de m'avoir appelé gentiment au moment où j'allais me mettre à table.
Bah, voilà, merci pour vos lumières.
Raphaël Gomez est avec nous. Vous êtes mis à votre compte au restaurant Itacoa. Qu'est-ce que ça change quand on est le propriétaire de son propre restaurant? Est-ce qu'on peut faire 100% de ce qu'on veut et qu'on n'arrivait pas à faire avant?
Oui.
Dans la cuisine.
Pas trop, oui, c'est ça. Mais j'ai déjà fait avant, quoi.
Donc, vous faisiez déjà avant, oui, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, ça changera. Sauf qu'en fait, là...
Mais ça, c'est chez moi. Itacoa, c'est la petite plage que j'ai grandi au Brésil. Donc, c'est déjà une chose qui me dit maison.
C'est une plage qui est devenue très célèbre chez les surfeurs, là, Itacoa. C'est ça, il y a beaucoup de surfeurs maintenant. C'était sauvage avant, mais maintenant, c'est... Ouais.
Mais c'est chez moi, quoi. Je peux commander les choses que je veux, les assiettes, les mélanges, les invités.
Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent manger chez vous sont des gens curieux ou les gens mangent toujours la même chose? Souvent, les gens qui vont au restaurant, ils vont pour manger toujours le même plat.
Oui, mais sa carte change pratiquement tous les jours. C'est donc c'est là-bas, mais chez lui, on ne peut pas. On est obligé de varier chez lui.
Combien de viande chez vous? De choix de viande?
J'ai deux viandes maintenant.
Ouais. La carte. C'est pas beaucoup, c'est
pas beaucoup.
Ça veut dire qu'on mange quoi chez vous?
Mais c'est les étés. Donc les étés, c'est plus poisson, fruits de mer, légumes, les choses légères. Et après, automne, hiver, c'est un peu plus de la viande rouge.
Ouais, ça colle quand même. Qu'est-ce qu'on mange chez vous en ce moment?
En ce moment, on mange de la truite banca fumée que j'ai fait maison. On mange des lieux jaunes, carottes, gingembre, c'est entouré, salade d'avocat brûlé avec petit épeautre, haricots noirs et pickles, c'est quand même léger, c'est acide, c'est hyper bon.
Il y avait une salade de fruits de mer le jour où je suis passé.
Salade de fruits de mer, oui.
Avec des tomates d'Aterino.
Poule d'Aterino, échalotes pickles,
farofa. Piment piquillo, farofa de maïs.
C'est ça. Qu'est-ce que j'ai à la carte? Moi, je sais pas, j'ai vraiment changé toutes les semaines.
Donc, et c'est une inspiration qui est brésilienne, votre cuisine? Qui est aujourd'hui aussi une cuisine du monde?
Moi, je dirais un peu fusion, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup voyagé. Donc
j'aime
c'est
pas trop cette mot, quoi.
Non, fusion, moi non plus, mais.
Confusion.
Ah oui.
Ouais, mais alors, fusion, voilà. C'est, j'enseigne pas de mélanger. C'est vraiment,
Non, c'est d'associer plutôt que de mélanger. Ouais.
C'est ça. C'est plus associé qu'est mélangé. Quand on dit fusion, je vais faire les japonais avec brésiliens, avec un touche français. Non, c'est pas de tout ça. C'est les produits, c'est la...
Alors, une association, par exemple, vous, Manu disait tout à l'heure que vous associez des choses qui, a priori, ne sont pas associables. Quels sont des exemples d'associations récentes que vous avez faites?
C'est difficile pour moi à dire parce que pour moi c'est toujours associable.
Des associations originales.
C'est pour ça que j'ai fait parce que je trouve que ça va avec. Mais je peux dire, je laisse Manu parler un peu.
Je me souviens d'un mélange avec il y avait un mélange de tapenade de... Qu'est-ce que j'avais cité comme exemple la dernière fois? Il y avait un... Attendez, je vais retrouver ça.
Bah, j'ai fait un ceviche de papaya verte, papaya mûre, avocado et crabe. Mm-hmm. C'était hyper bon.
Voilà, c'était un plat. Vous aviez fait au grand cœur du veau avec des asperges blanches, de la rhubarbe et de l'hibiscus. Il y avait une entrée aussi, c'était des betteraves avec de la feta et de la tapenade. Bon, feta, tapenade, ça va. Betterave, feta, ça va. Mais les trois ensemble, c'est vrai que sur le papier, je miserais pas cher dessus. Et pourtant, c'était super bon. Et puis en dessert aussi, il y avait un semi-freddo à la cacahuète avec des dattes. et du toffi, et ça avait en bouche le, on avait l'impression de manger un sneakers.
C'était ça.
Ah, c'est ça. Exactement, ouais, ouais, ça. Ouais. Mais avec que des produits super bons, et pourtant, dedans, il y a de la date. Il y a pas de date dans les sneakers. Voilà, c'est des, c'est des.
Avec un glace au lait.
C'est ça, un semi-frédo au lait.
Quand on a mangé, c'était vraiment l'impression de manger des sneakers, mais avec des bons.
Avec des bons produits. Sans huile de palme, sans.
C'est ça.
Oui, c'est le, par la famille Mars.
C'est ça, absolument.
Et ça repart. La date, vous la cuisinez beaucoup?
Oui.
C'est un produit que vous travaillez beaucoup?
Je travaille beaucoup avec date. Ouais. J'adore, j'ai une fusion avec BBMA, j'ai fait plein de choses avec. Parce que c'est un côté sucré, qui s'apprend, que c'est fait un très bon mélange avec les choux-fleurs, les quinoa, les choses comme ça. Et date, c'est...
Alors, par exemple, vous voyez, vous parlez d'une association, là, date et choux-fleurs, c'est vrai que c'est pas la première qui vient en tête. Vous faites quoi avec ça?
Bah, j'ai un assiette que c'est choux-fleur, curry, rôti avec un salade de quinoa, raisin, amande et un petit poulet de dattes à côté. Que tout ensemble, c'est hyper bien. C'est sucré salé, c'est croquant.
Ça fait envie. Le choux-fleur rôti, j'adore ça en plus.
D'accord, mais alors le choux-fleur, c'est pareil. C'est quelque chose, c'est comme la betterave. Pour en faire manger aux gens, ça peut parfois être un peu compliqué.
Oui,
vous voyez
mais justement, beaucoup, il fait des mariages qui rendent sexy les trucs les plus improbables, les produits les plus improbables. Vous voyez, donc, voilà. C'est ça qui fait plaisir. Parce que c'est vrai qu'il fait une cuisine qui est à la fois simple et élaborée. Elle est simple dans les produits. Il n'y a pas 15 000 produits. Mais c'est une très belle cuisine.
Alors, vous dites que le week-end, samedi et dimanche, vous faites un brunch. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre brunch? Parce qu'en général, dans le brunch, on trouve un peu de tout.
Oui, c'est un peu toujours la même chose. Les œufs brouillés, le saumon fumé. Alors, le brunch à la Raphaël, c'est quoi?
Je n'ai pas ça. J'ai des avocats de toast, des œufs bénédicts, j'ai des florentines, j'ai des œufs brouillés aussi.
Hein. Alors, les œufs florentines, pour les
magnifique.
Pour les auditeurs, ce sont des œufs avec une béchamel et des épinards.
Bah, j'ai fait un peu différent. J'ai fait un petit spinach cake.
C'est
super. Un gâteau d'épinards avec citron, pion de pain. J'ai fait rôti, après des œufs pochés et hollandaise. Mais de la vraie hollandaise.
Ouais. Hein, c'est difficile de
hollandaise au beurre clarifié, comme à l'école.
Ouais. Mais j'ai fait, j'ai fait échalote pickles.
Ah, ok,
et,
ouais.
Dedans, un petit peu de tabasco pour donner un côté intéressant que se vient à la gorge.
Moi, j'ai de plus en plus faim, là.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre brunch? Parce que le brunch le samedi, c'est vrai qu'il n'y en a pas, énormément des brunchs le samedi. Ouais, dimanche, mais
les pains de queijo, qui c'est les petites gougères.
C'est les petits pains au fromage. Là. Oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est super bon, ça.
La manioc, açaï bowl, qui c'est açaï, est-ce que vous connaissez? C'est les petits baies.
Açaï, oui, d'accord.
Avec granola maison et fruits frais.
Oui, donc très varié, quoi. Et alors, le brunch est à combien si on a des auteurs qui veulent venir bruncher
chez vous? À combien de sous?
Aujourd'hui ou demain?
Je n'ai pas de...
Ah oui, c'est
même pas ça.
Oui, parce que votre carte, c'est un peu en mode tapas, c'est-à-dire qu'on peut.
C'est ça, je laisse vous manger tranquille, quoi.
On compose son brunch comme on veut, quoi.
C'est ça. J'impose pas que vous ayez besoin de penser 25, 30, 40 euros, quoi.
Oui, d'accord, oui.
Je laisse si vous voulez.
Oui, donc on peut manger deux petites assiettes pour 15 euros. On se fait son brunch. Alors avec vos jus,
quoi. Régaler.
Vos jus ont une particularité, Raphaël, parce que vous avez un outil un peu particulier qu'on trouve pas partout.
Oui, j'ai les jus pressés à froid, c'est un jus qui s'est fait gratter des légumes et fruits et presse 14 tonnes. Et ça sort un jour que c'est vraiment magnifique. C'est une pureté dedans, c'est un goût hyper propre, quoi. Et c'est fait hyper bien parce que c'est un jus que j'ai utilisé à peu près 1 kg, 1 kg 200 de légumes et fruits pour chaque 500 ml. Donc c'est une chose qui s'est remplie bien.
Bien, Raphaël Gomez, merci d'avoir été avec nous. Votre restaurant s'appelle Itacoa. Ça se trouve
merci
au Manu.
185 rue Saint-Denis dans le 2e arrondissement. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Vous allez directement.
On ne réserve pas.
On vient directement. Voilà.
Bah, on peut donner
le numéro. Il y avait, alors quand j'avais préparé ma chronique sur le restaurant, j'avais pas encore le numéro. Mais alors à ce moment-là, donnez-nous le numéro.
Parce qu'il a pas voulu vous donner.
C'est 09 50 48 35 78.
Bien.
À 185 rue Saint-Denis.
Donc pour bruncher aujourd'hui ou demain ou pour dîner ce soir chez Raphaël Gomez ou,
on vous attend.
Ou toute la semaine prochaine. Non,
et puis vous pourrez nous dire si c'est une bonne adresse et si on a eu raison de vous l'inviter et de vous le conseiller.
Ah voilà, appelez-nous pour nous dire ce que vous en aurez pensé.
Merci Manu, on
merci
se retrouve la semaine prochaine. Merci,
merci
Raphaël Gomez d'avoir été avec nous. Très bon week-end sur Beurre FM.
À vous aussi.
C'était Les Exploits du Chef avec Philippe Robichon et le Chef Voilà. Le Chef Voilà. Sur Beurre FM. Sur Beurre FM.